Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute de votre deuxième édition du Monde aujourd'hui. Jacques Aristide pour vous accompagner. Les titres que nous allons développer en ce jeudi 13 décembre 2018. Un incendie détruit des milliers de machines à voter à Kinshasa, la piste criminelle privilégiée.
Sans minimiser la gravité de cette situation dommageable pour le processus électoral, la CENI s'emploie pour la poursuite du processus conformément à son calendrier.
Au Cameroun, Paul Biya ordonne l'arrêt des poursuites contre 289 détenus de la crise anglophone. Au Mali, des dizaines de civils touaregs tués par des djihadistes présumés. Washington dénonce les comportements prédateurs de Moscou et Pékin en Afrique. À venir également dans la Minute Éco, la Côte d'Ivoire annonce deux nouveaux vols directs. Et dans la page sportive, le Caire officialise sa candidature pour accueillir la CAN 2019. Cap d'emblée sur la République démocratique du Congo pour commencer, un incendie survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans un entrepôt de la capitale Kinshasa a détruit des milliers de machines à voter et d'urnes. Elles devaient servir pour la présidentielle du 23 décembre. Je vous propose d'écouter Corneille Nanga, président de la commission électorale du pays, la CENI.
Le feu a consumé les matériels de 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en vies humaines. Les matériels estimés à ce moment, c'est près de 8000 machines à voter sur les 10368 prévues pour Kinshasa. C'est 3774 isoloirs sur les 8887 prévues. C'est 552 kits bureautiques sur le 8887. Sans minimiser la gravité de cette situation dommageable, la CENI s'emploie pour la poursuite du processus conformément à son calendrier. S'agissant de Kinshasa, ville à laquelle était destiné le plus grand lot de matériel brûlé, des dispositions utiles sont prises après évaluation technico-opérationnelle préliminaire que j'ai conduit personnellement ce matin, afin de garantir, là aussi, la poursuite sans faille du processus électoral.
Également dans l'actualité, Yoweri Museveni rappelle à l'ordre Pierre Nkurunziza. Le président ougandais demande à son homologue burundais de respecter la communauté d'Afrique de l'Est, qui est médiatrice dans la crise qui traverse le Burundi, et de dialoguer avec son opposition. Dans un courrier diffusé ce jeudi sur les réseaux sociaux, le président Museveni rappelle au chef de l'État burundais que le bloc régional est garant de l'accord d'Arusha de 2000. Le dirigeant ougandais, dont le courrier est une réponse à une lettre de son homologue du 4 décembre, va jusqu'à évoquer une possible manipulation de l'EAC par le Burundi. Bujumbura a provoqué par son boycott le report d'un sommet du bloc fin novembre, avant d'exiger la tenue d'un sommet extraordinaire pour ne traiter que de la question du conflit ouvert entre le Burundi et le Rwanda. Les relations sont délétères entre les deux pays. Au Cameroun, le chef de l'État, Paul Biya, a décidé ce jeudi l'arrêt des poursuites engagées contre 289 détenus de la crise anglophone. Ils avaient été arrêtés pour des délits commis dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le communiqué de la présidence ne précise pas le nom des bénéficiaires de cette mesure. Plusieurs centaines de personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone sont actuellement détenues dans différentes prisons camerounaises. Parmi elles figure le leader séparatiste anglophone, Julius Sissoukou Ayouk Tabé, accusé notamment de terrorisme et de sécession, dont le procès s'est ouvert il y a une semaine devant le tribunal militaire de Yaoundé, puis renvoyé au 10 janvier. Au Togo, le gouvernement est catégorique. Les législatives auront bel et bien lieu dans exactement une semaine, soit le jeudi 20 décembre prochain. Cela malgré la crise politique qui secoue le pays et les appels de l'opposition à reporter le scrutin. Nathalie Barge pour les détails.
Le processus électoral est irréversible, a déclaré le porte-parole du gouvernement hier soir, précisant que les missions d'observation de la CEDEAO et de l'Union africaine seront déployées cette semaine. Gilbert Bawara a déploré les violences lors des manifestations samedi et lundi dans le pays qui ont fait 4 morts selon le gouvernement, tandis que l'opposition parle de 6 décès. Une enquête est annoncée. Monsieur Bawara a par ailleurs accusé certains leaders politiques d'inciter la population à agresser et attaquer les forces de l'ordre. L'opposition qui boycotte ces législatives a appelé à manifester du 8 au 18 décembre pour exiger l'arrêt du processus électoral. Ces manifestations ont été interdites alors que la campagne a débuté le 4 décembre. Dans un communiqué conjoint ce jeudi, l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la France et l'Allemagne affirment suivre avec préoccupation les derniers développements de la situation au Togo et soulignent la nécessité d'éviter toute forme de violence.
Au Mali, des dizaines de civils Touareg ont été tués par des djihadistes présumés dans la région de Ménaka. C'est dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
C'est dans la nuit du 11 décembre 2018 que des bandits armés sur une 20aine de motos ont fait irruption dans plusieurs localités du sud de la région de Ménaka et ont exécuté des civils de la communauté Idasaka. C'était entre l'ouest de la localité de Tinawab à 20 km de Ménaka. Selon les responsables des groupes armés du MSA, 42 civils ont été exécutés dans leur campement, parmi lesquels il y a des enfants de moins de 8 ans. Les assaillants, après leur forfait, sont répartis vers la frontière nigérienne après avoir allumé un feu de brousse. Le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA a rapidement dépêché des troupes sur place pour faire le constat et venir en aide aux victimes. C'est ainsi que 3 blessés et des rescapés ont pu être acheminés à Ménaka. Des troupes des forces armées du Mali et de certains mouvements signataires ont aussi rejoint les lieux des massacres. Ces troupes ont aidé à contenir le feu de brousse. Le gouverneur de la région de Ménaka, Daouda Maïga, condamne avec la grande fermeté ces crimes abominables et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, manifestation en hommage à Normer Zongo. Ce journaliste d'investigation a été assassiné il y a 20 ans, à l'âge de 49 ans. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de la Nation, au cœur de la capitale, Ouagadougou. Elle a scandé des slogans comme « Vérité et justice pour Norbert Zongo »,« 20 ans d'impunité, trop c'est trop ». Norbert Zongo a été tué alors qu'il enquêtait sur le meurtre sous la torture de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré. François Compaoré, actuellement sous contrôle judiciaire à Paris, et un tribunal parisien a donné son feu vert pour son extradition au Burkina, mais ses avocats ont fait appel. En Côte d'Ivoire, l'investiture du maire élu du quartier des affaires du Plateau à Abidjan a été reportée après un incendie à la mairie. Cette commune est au centre de fortes tensions lors des municipales d'octobre dernier et sur fond d'accusations de malversation. Réputée la plus riche de Côte d'Ivoire, la mairie du Plateau, quartier du pouvoir et des affaires de la capitale économique, a été l'objet d'une âpre bataille électorale, finalement remportée par l'opposant Jacques Ewo, qui concurrait pour le PDCI.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont plaider pour mettre fin aux missions de l'ONU en Afrique qui ne favorisent pas une paix durable. C'est l'avertissement du conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton. Il a présenté ce jeudi la nouvelle stratégie de l'administration du président Donald Trump pour le continent africain. John Bolton a également fait part d'une série de mesures pour contrer ce qu'il qualifie de comportement prédateur de Pékin et Moscou en Afrique. Abdourahman Dia.
Le conseiller du président américain s'en est pris à la Chine qui a intensifié sa présence économique et militaire en Afrique. John Bolton accuse Pékin de pratiques prédatrices qui freinent la croissance économique et l'indépendance du continent. Il accuse Pékin de favoriser la corruption et de tenir en otage les pays africains à travers ses prêts. Pour M. Bolton, la présence de plus en plus marquée de la Chine et de la Russie constitue une réelle menace aux intérêts sécuritaires des États-Unis. Nous ne sommes pas de ces États qui promeuvent la dépendance économique, a-t-il dit. Il ajoute que l'aide américaine fera progresser les intérêts des États-Unis et aidera les pays africains à devenir autonomes. Alors que le département de la Défense a annoncé une réduction de la présence militaire américaine en Afrique, John Bolton a estimé que la stratégie gagnante pour Washington se trouve dans un partenariat qui favorise le développement économique en Afrique et crée des emplois ici aux États-Unis.
Attentat de Strasbourg, une cinquième personne de l'entourage de Shérif Shekat a été placée en garde à vue aujourd'hui. Quant à Shérif Shekat, tireur présumé de l'attaque contre le marché de Noël de cette ville française, il est toujours en fuite. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et dans le monde. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Nigeria engage un procès contre Shell et Eni pour un montant de 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un accord sur un champ pétrolier signé en 2011. Selon l'accusation, les sommes d'argent prétendument versées au Nigeria l'ont été sur le compte d'une société contrôlée par Dan Etete, ancien ministre nigérian du pétrole et utilisée pour des pots de vin. La Côte d'Ivoire annonce l'ouverture de deux nouvelles lignes directes, Abidjan-Washington et Abidjan-Montréal. Le but est d'accroître l'apport des transports dans son PIB, qui se situe entre 7% et 12%. La future ligne Abidjan-Washington sera la deuxième liaison aérienne directe avec les États-Unis, après l'ouverture, il y a quelques mois, de la première liaison reliant Abidjan et New York, effectuée par la compagnie Ethiopian Airlines. Enfin, la Guinée va recevoir 500 millions d'euros de l'Agence africaine de développement pour soutenir jusqu'en 2020 la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Ces fonds devraient être investis dans plusieurs secteurs clés comme l'éducation, l'agriculture, la décentralisation, l'énergie et l'eau. Le financement devrait aussi prendre en compte les programmes de développement communautaire ainsi que l'amélioration de la mobilisation des ressources internes à travers le renforcement des capacités techniques.
Et maintenant, résumé de toute l'actualité sportive du jour, je passe le relais à Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
L'Égypte prête à sauver la CAF.
L'Égypte est capable d'organiser la compétition et on sera fiers de le faire. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles. On a des structures au plus haut niveau et on a déjà organisé des compétitions, a déclaré Achraf Sobhi, ministre égyptien des sports. Soucieux de ne pas faire de l'ombre au Maroc, le pays de Mohamed Salah avait déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas candidat pour accueillir le tournoi à la place du Cameroun. Mais finalement, le Maroc a annoncé hier qu'il ne se portera pas candidat. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière en 2006. Les prétendants ont jusqu'à demain minuit pour déposer leur dossier de candidature.
Alain Giresse, nouveau sélectionneur de la Tunisie.
Oui, 2 mois après le départ de Faouzi Benzarti, la Fédération tunisienne de football a annoncé le recrutement du technicien français qui s'est engagé jusqu'en 2020. Sans contrat depuis plus d'un an, l'ancien sélectionneur du Gabon reprend ici du service. La dernière fois qu'on l'a vu sur un banc, c'était avec le Mali en septembre 2017. Au sortir d'un match nul face au Maroc, il a jeté l'éponge. Passé aussi par le Sénégal, Alain Giresse va tenter d'apporter une stabilité sur le banc des Aigles de Carthage, qualifié pour la CAN 2019.
L'Espérance Tunisienne connaît son adversaire au Mondial des clubs.
Et oui, samedi, le champion d'Afrique en titre entrera en lice en quart de finale face au club émirati d'Al Ain. Le représentant du pays hôte, les Émirats Arabes Unis, a validé son billet en écartant Wellington au tir au but lors du premier tour. Pourtant mené 3-0 à la mi-temps, les locaux ont complètement renversé la vapeur grâce notamment à un but du Malien Tongo Doumbia. Le club tunisien est donc prévenu.
Le Sénégal rejoint l'Égypte à la finale de la CAN de football de plage.
Tenant du titre, les Lions de la Teranga ont tenu leur rang en écartant le Maroc 7-2 en demi-finale à Sharm el-Cheikh. Le Sénégal fait ainsi coup double car il valide du même coup son billet pour le mondial de la discipline. Demain en finale, les Sénégalais retrouveront le Nigeria qu'ils avaient battu au même niveau il y a 2 ans.
Et Yacouba, Europa League ce soir.
Séville et l'AC Milan sont en ballotage favorable pour se qualifier pour les 16e de finale s'ils terminent le travail respectivement face à Krasnodar et l'Olympiakos. A contrario, les Grecs devront battre Milan par au moins 2-1 pour se qualifier. Dans le groupe B, le dernier ticket en jeu se jouera entre le Celtic et Leipzig. Le club écossais sera qualifié en cas de victoire ou de nul contre Salzbourg.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour sur les actes de violence, d'intolérance politique et d'incitation à la haine observés ces derniers jours lors de la campagne électorale en République démocratique du Congo. À 10 jours des élections, des morts ont été enregistrées à Lubumbashi et à Kalemie parmi les partisans de la coalition Lamuka et de son candidat Martin Fayulu. L'opposant accuse le Front commun pour le Congo, la coalition pro-pouvoir, de prendre le pays en otage et de lui empêcher de battre campagne normalement. Le Front s'en défend et accuse à son tour Martin Fayulu et ses militants de provocation. La population congolaise et l'ONU, pour leur part, appellent ces acteurs politiques à la tolérance. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les trois candidats favoris à la présidentielle du 23 décembre 2018 ont multiplié des accusations d'intolérance politique les uns envers les autres. Félix Tshisekedi, qui n'a pas pu se rendre mercredi à Butembo pour tenir son meeting, accuse la coalition Lamuka de Martin Fayulu d'avoir planifié la perturbation de cette activité.
Nous avions déjà commencé à nous diriger sur la route de Butembo et le contingent de police, à un moment, nous a fait signe qu'il allait s'arrêter là. Et ils nous ont fortement déconseillé de partir seul, sans protection, d'autant plus que les perturbateurs de la Lamuka ont des relais dans les Maïmaï et qu'ils vont sûrement donner des coups de fil pour qu'on nous coupe la route à nos amis de la Lamuka. Je ne sais pas pourquoi ils s'en prennent à nous, alors que nous sommes censés avoir un adversaire commun qui est le pouvoir. D'un côté, ils jouent aux victimes au Katanga, mais de l'autre, ce sont eux les bourreaux.
Faux, réplique Pierre Lumbi. Le directeur de campagne de Martin Fayulu évoque notamment la situation vécue par son candidat à Lubumbashi et à Kalemie pour affirmer que c'est bien sa coalition qui est victime d'intolérance politique.
C'est nous qui sommes victimes et c'est nous qu'on accuse. Aujourd'hui, ce n'est pas des militants, des l'IDPS qui sont morts. C'est la population encadrée par la Lamuka. Je pense qu'il se trompe d'ennemi. J'ai lancé un appel pour que la population ne cède pas à la violence, à la provocation. Nous sommes des non-violents et nous les resterons. Nous condamnons les groupes armés. Et s'il y a des gens qui ont empêché Cash de faire ses meetings, nous les condamnons publiquement et nous attendons qu'ils condamnent ce qui s'est passé à Kalemie, à Lubumbashi.
Accusé d'utiliser l'appareil de l'État pour favoriser son candidat au détriment d'autres, le Front commun pour le Congo s'en défend à son tour et accuse les partisans de Martin Fayulu de déchirer les affiches de son candidat Ramazani Shadari et de ses candidats députés nationaux. Félix Kabange Numbi est membre du comité stratégique du FCC.
Le FCC, en tant que coalition politique, nous nous occupons des affaires politiques. Nous ne pouvons pas ici dire qu'on a autorisé à qui que ce soit de tirer sur quelqu'un. Si jamais il y a eu un policier qui aurait tiré, je pense que les services sont là. Les coupables seront traduits en justice. Mais nous, ce que nous disons, c'est justement cette succession de provocations. Ils veulent à tout prix qu'il y ait des incidents.
Dans un communiqué rendu public à Kinshasa, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leila Zerougui, a déploré les pertes en vies humaines et demandé aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. Les Kinois interrogés par VOA Afrique déplorent pour leur part le fait que la violence et l'intolérance aient pris le dessus sur le débat d'idées censé caractériser cette période de campagne électorale.
C'est très regrettable. Nous avions besoin de programmes de chaque candidat. C'est ce qui peut donner l'occasion à un électeur de choisir un candidat. Non les attaques, non la violence.
C'est vraiment déplorable parce que nous sommes à la troisième expérience des élections dans notre pays. On ne devait pas assister à des problèmes comme ça. Je fais appel à toute la population congolaise d'être trop vigilant. Il ne faut pas suivre les incitations au tribalisme surtout.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Poursuivons sur le même sujet avec cette campagne électorale tendue en RDC avant le vote du 23 décembre. Des morts à Kindu, Lubumbashi, Kalemi, Mbuji-Mayi, puis un dépôt de la commission électorale incendiée la nuit dernière à Kinshasa, vous l'avez entendu dans le journal un peu plus tôt. Le scrutin sera-t-il apaisé? Idrissa Fall a recueilli l'avis de Tryphon Kin-Kyé Malumba, l'un des 21 candidats à la présidentielle.
Il y a d'abord effectivement ce mot apaisement qui est très souvent entendu. C'est qu'il y a des gros problèmes. Tout un décor est planté pour des élections chaotiques et il y a cette machine à voter que d'aucuns appellent machine à voler qui semble être programmée pour un plébiscite. Et quand on voit toutes ces foules qui se déversent derrière chacun des candidats, ces foules qui croient en ce processus, j'ai comme l'impression qu'au lendemain d'une annonce, on verrait effectivement ces foules se déverser dans nos rues sans qu'elles n'aient été appelées à se jeter dans la rue.
Les gens se mobilisent pour aller dans une manifestation, ça ne veut pas dire qu'ils vont se mobiliser pour aller voter pour quelqu'un.
Exact. Ce sont finalement les mêmes foules qui se déversent dans la rue pour aller voir, applaudir quelqu'un qui arrive. Ce sont effectivement, quand on voit par exemple dans une ville comme Bukavu, après le départ de tel candidat, un autre arrive, ce sont toujours les mêmes foules. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est des foules de curiosité ou c'est des foules d'adoption?
Kinshasa est connu, c'est la capitale. Et Kinshasa, depuis l'époque de Mobutu, a tout le temps été une ville rebelle. Est-ce que c'est suffisant pour certains opposants de dire qu'on va gagner les élections?
Bon, Kinshasa, c'est quand même un stock d'électeurs importants. Ça fait quand même le swing state du Congo, avec environ 5-6 millions d'électeurs.
Sur 40 millions d'électeurs,
voilà.
Quand même. Hein?
Absolument, mais on a une vingtaine de provinces, donc il ne faut pas... Rien que Kinshasa, vous avez 7 millions, vous avez le Katanga, vous avez le Nord Kivu, vous avez le Sud Kivu, vous avez le Bandundu, enfin le Kwilu. Voici les grosses provinces qui ont des stocks d'électeurs, qui sont des swing states en effet. Et quand vous faites du 40-45% à Kinshasa, et vous faites pareil dans le Kivu, dans le Bandundu, il est clair que vous êtes élu.
Tryphon Kin-Kyé Malumba, l'un des 21 candidats à l'élection présidentielle en RDC.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Niger, colère des réfugiés soudanais pris en charge par le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ils sont depuis mardi dernier en sit-in devant les locaux de l'organisme onusien pour exiger des explications sur leur situation, notamment le séjour qui se prolonge indéfiniment, d'après eux. Reportage sur place de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Ils sont une centaine en majorité des Soudanais qui font le pied de grue à la devanture de la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Niamey depuis mardi dernier. Tous veulent être fixés sur leur situation. Younoussa Ibrahim est leur porte-parole.
Hasser Agadez, il m'a fait l'interview, puis il m'a amené ici pour me trouver la solution que je cherchais. D'abord, je suis jusqu'à venir ici, moi, je fais... Un an, ça n'a aucune solution. Hier, le représentant du HCR, Madame Alexandre, visitait à nous, il a dit, nous, par rapport aux Soudanais, on a parlé de migration dans le trait de Niger. Ok, si on veut accepter de rester ici, manger et travailler, ça c'est nous droit. Si c'est pas ça, chacun décide pour quitter le Niger toute seule. C'est pas par rapport à l'auteur ou bien à son responsabilité.
Ce qu'ils demandent, c'est donc que le HCR les achemine comme les Érythréens ou les Éthiopiens, par exemple, en Europe. Mais la représentante du HCR au Niger leur réplique, ils n'ont pas le même statut. Alexandra Morelli.
Il y a un projet de l'ETM qui est lié à un accord que l'OHC a fait avec le gouvernement du Niger d'évacuation directement des centres de détention de la Libye vers le Niger en transit. Et donc ces gens vont dans des pays tiers. Pour les Soudanais, ce projet de réinstallation n'est pas encore prévu. La plupart de ces Soudanais viennent du Tchad. Ils ont été déjà reconnus comme réfugiés là-bas. Techniquement, c'est le Tchad qui les protège. Logiquement, c'est au Tchad qu'on fait la réinstallation. Malgré les efforts à leur dire qu'il faut avoir patience, qu'ils sont quand même dans un pays qui les a accueillis, ils sont dans un pays qui les nourrit, ils sont dans un pays qui leur a donné un toit, ils sont en train de vivre un moment de frustration. On les comprend, on les écoute et on gère.
Mercredi soir encore, un groupe de ces jeunes Soudanais était visible devant les locaux de la représentation du HCR à Niamey. Le Niger compte près de 200 000 personnes réfugiées sur son territoire du fait des conflits dans deux de ses voisins, à savoir le Nigeria et le Mali. Un nombre important de migrants et de personnes refoulées du fait de la situation en Libye séjournent également sur le territoire nigérien, pris en charge par les organismes spécialisés des Nations Unies. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les États-Unis veulent contrer les comportements prédateurs de Pékin et Moscou en Afrique. C'est le conseiller présidentiel pour la sécurité nationale qui l'a dit aujourd'hui. John Bolton a également promis dans la nouvelle stratégie africaine du président Donald Trump de mettre fin aux aides financières et aux missions de paix de l'ONU jugées inefficaces. John Bolton était l'invité du groupe de réflexion Heritage Foundation pour discuter de cette stratégie africaine de l'administration Trump. Compte rendu, Abdourahman Zia.
Washington n'entend pas laisser le champ libre à Moscou et à Pékin qui mènent des offensives en Afrique. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale.
Nos grands rivaux que sont la Chine et la Russie développent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Ils investissent délibérément et de façon agressive pour devancer les États-Unis sur le continent. Entre 2016 et 2017, l'investissement direct chinois a atteint 6,4 milliards de dollars.
La Chine en a pris pour son grade. John Bolton l'accuse de favoriser la corruption en Afrique en facilitant des prêts à des pays qui ne respectent pas les normes démocratiques et les droits humains, qualifiant de prédatrice ces pratiques qui créent une relation de dépendance économique entre Pékin et le continent.
China uses bribes.
La Chine utilise des pots de vin, des accords opaques et utilise la dette pour tenir les États africains dépendant des demandes et de la volonté de Pékin. Ces investissements vont avec la corruption et ne respectent pas les mêmes normes environnementales et éthiques que les États-Unis.
John Bolton donne l'exemple de la Zambie qui doit 6 à 10 milliards de dollars à la Chine. Conséquence, Pékin pourrait prendre le contrôle de la Compagnie nationale d'électricité pour rentrer dans ses fonds. En contraste, Washington propose un partenariat gagnant-gagnant qui favorise les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis et le développement de l'Afrique. Mais John Bolton insiste sur le bon usage de l'argent du contribuable américain.
Désormais, nous n'allons plus tolérer cette pratique de l'aide de longue durée sans résultat. Il n'y a pas d'assistance sans responsabilité ni d'aide sans réforme.
John Bolton a été plus clair sur l'utilisation de l'argent du contribuable. Selon lui, l'administration américaine ne va plus permettre que les impôts durement payés par les Américains servent à aider des autocrates corrompus à remplir leurs coffres aux dépens de leur population ou pour commettre de graves violations des droits de l'homme. John Bolton a annoncé la mise en place d'une politique dite « Afrique prospère » qui met l'accent sur l'investissement, la croissance économique et une amélioration de l'environnement des affaires sur le continent.
Et voilà, c'est ici que nous refermons le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Cheikh Thierro. Et merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. À très bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.